Et on va faire la lecture, si vous voulez bien, de Daniel chapitre 2, les versets 1 à 23. Pour commencer, Daniel, donc on est environ dans l'année 602-603 avant Jésus-Christ. Quelques juifs sont déjà déportés, d'autres vont encore l'être jusqu'au dernier, dans le royaume de Babylone. Et Nebuchadnezzar est ce roi de Babylone. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité, il ne pouvait dormir. Et le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Et le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. » Selon d'autres traductions, « Ma décision est arrêtée » ou « Voici ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. Et c'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Et le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi, dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Mais il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que tu demandes, ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Là-dessus, le roi se mit en colère, il s'irrita violemment et ordonna que l'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjok exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu, le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, ce que tu nous as révélé et que tu nous as révélé le secret du roi. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole. Tu l'as préservée au fil des siècles pour qu'on puisse la connaître aujourd'hui, pour pouvoir y puiser instruction, Seigneur, pour nos propres vies, pour que tu puisses te révéler à nos cœurs, nous faire connaître ta volonté, qu'on puisse être rendu aussi capable de la pratiquer. Seigneur, nous voulons encore te demander de parler à nos cœurs, de te révéler dans ta parole, Seigneur, à chacun d'entre nous ce matin, par Jésus-Christ. Amen. Ces dernières années, la voyance a fait l'objet d'un incroyable engouement. Le sociologue Serge Dufoulon, qui est le spécialiste des pratiques magico-religieuses, constate que les gens n'ont plus les repères que leur donnaient les religions, la connaissance de Dieu, le sens de la vie. Et il écrit, en temps de crise, les gens ont besoin de réponses parce qu'ils sont dans l'incertitude. Quand les politiques ou les méthodes rationnelles, la science, ne peuvent pas répondre à leurs questions, c'est-à-dire bien tout le temps, notamment sur le travail et l'emploi, la perte d'un être cher ou de la maladie, ils vont voir des voyants et des médiums. Voilà pourquoi le marché de la voyance explose. Son chiffre d'affaires s'élève à environ 4 milliards en France. 15 millions de personnes vont consulter chaque année. 100 000 voyants exercent dans notre pays. À Babylone, à l'époque de Daniel, comme en France aujourd'hui, les gens sont préoccupés par l'avenir. On aimerait laisser une trace dans ce monde. On ne voudrait pas avoir vécu pour rien. Imaginez un athlète qui s'est préparé pendant des années pour les Jeux Olympiques. Il est le favori pour remporter l'or dans sa discipline. Mais juste avant la compétition, il se blesse et il doit mettre un terme à sa carrière. Son rêve s'effondre. Imaginez ce gars qui est fan d'aviation, qui s'est préparé pendant toute sa vie, et puis qui à être pilote, il a réussi les concours, mais lors d'un examen de santé, on lui détecte un problème aux yeux et il doit mettre un terme également à sa carrière. Son rêve de voler s'enfuit. Imaginez que vous construisez une maison de vos propres mains pendant des années, investissant tous vos finances et tout votre temps, et qu'alors qu'elle est presque finie, cette maison parte en fumée avant que vous ne l'ayez assurée. Imaginez que vous préparez votre mariage avec l'homme de vos rêves. Vous avez votre robe, vous avez tous les projets, tous les invités, tout est prêt. Mais alors qu'il se rend à la mairie, il a un accident et meurt. Tout s'effondre. Babylone et son empereur Nebuchadnezzar, ils sont à ce moment-là à l'apogée de leur vie. Ils sont, c'est le royaume le plus glorieux qui soit, l'homme le plus puissant de la terre. La ville de Babylone est somptueuse, elle est fortifiée, l'architecture est magnifique, splendide. Il y a les jardins suspendus qui sont une des sept merveilles du monde de l'époque. L'art, la science s'y développent. Mais voilà que cet homme le plus puissant de la terre fait un rêve, il en perd le sommeil. Il est terrorisé. Il a rêvé d'une immense statue qui est frappée par une pierre juste à la base et toute cette statue s'effondre, elle s'écroule. Et le texte biblique dit au verset 35, dans l'explication qu'on lira tout à l'heure, « Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. » Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Vous savez, il ne comprend pas tout ce rêve. Mais ce rêve fait écho aux pensées de son cœur. Et son cœur se dit, et si toutes ces choses que j'ai bâties s'arrêtaient brutalement? Et si ma vie, en fait, n'était que du vent? Et c'est la grande question que l'on doit peut-être aussi se poser. Sur quoi repose ma vie? Et si elle finissait maintenant, est-ce qu'elle serait simplement comme du vent qui disparaît de devant Dieu? Je voudrais voir ce matin qu'est-ce que Dieu nous révèle au travers de ce rêve finalement. Et je vous propose de voir que Dieu révèle combien la religion païenne est futile. On verra ensuite combien le pouvoir humain est fragile et qu'enfin Dieu nous révèle combien son royaume est ferme. Serge Dufoulon, toujours ce sociologue, écrit « Le potentiel du voyant repose sur l'empathie, sur l'écoute et sur une lecture fine de l'être humain qui permet de donner des bons conseils. Et j'imagine que Nebuchadnezzar, il se méfie de tous ces sages qui sont autour de lui et qui veulent lui expliquer son songe. Il a probablement la même opinion. Dans le verset 8 et 9, il leur dit, oui, vous voulez juste entendre mon songe et puis me trouver des explications. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés. Vous voulez certainement inventer des trucs, me raconter des bobards. J'ai regardé l'horoscope en préparant mon message. C'était purement scientifique. Voilà ce que j'ai lu. Amour. Grâce à Vénus, vous pourrez envisager une amélioration de vos relations conjugales. À condition que vous vous en donniez la peine. Ouais, pas bête. Argent. Évitez les opérations financières trop risquées. Santé. Surveillez soigneusement votre poids. Si vous avez un peu trop abusé de la bonne chère dernièrement, faites de l'exercice, les astres y étant très favorables. Vous voyez la chose? Nebuchadnezzar, il veut pas ce genre de blabla. Il veut pas ce genre de discours. Il veut des vraies réponses. Il veut des choses réelles. Le roi, il est convaincu de l'importance de ce rêve. Il semble même qu'il a fait plusieurs fois le même rêve. Et pour connaître avec assurance la signification de ce songe, il choisit de ne pas décrire son rêve alors qu'il en a parfaitement gardé le souvenir, de façon à pouvoir évaluer, en fond, les compétences de ces soi-disant experts dans les rêves. Il souhaite avoir une interprétation divine de son rêve. Pas le discours de charlatan. Est-ce que vous voulez de vraies réponses? Ou est-ce que vous vous contentez des spéculations, des magazines people, des horoscopes, des réponses toutes faites comme « oh, de toute façon, on ne peut pas savoir » ou vous avez recours aux offres suspectes de la religion telles que « oh, mes parents m'ont baptisé à ma naissance, ça devrait être bon ». Ou est-ce que vous vous confiez dans la faveur des astres? Pour des questions aussi importantes que de notre éternité, que notre vie, si vous placez votre confiance dans ces choses-là, vous n'êtes pas sérieux. La seule chose qui demande une vraie attention, c'est celle-là. Qu'est-ce qui va se passer avec ma vie? Sur quoi repose ma vie? Est-ce qu'il y a un fondement solide ou est-ce que c'est du sable? Versets 10 et 11, les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi ou quelque grand et puissant qu'il ait été n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Ils confessent leur impuissance, leur incapacité. Ils n'ont aucune réponse à proposer à la question du roi. Ils sont complètement défaillants. C'est l'aveu de leur impuissance, l'aveu de leur faiblesse, de l'échec du paganisme. Ils ne sont pas capables, ils reconnaissent que Dieu seul peut répondre à ce genre à la demande du roi. D'ailleurs, dans l'explication la rencontre que Daniel fait avec le roi quelque temps après, il dit au verset 27, Daniel répondit en présence du roi, « Ce que demande le roi est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi ce qui arrivera dans la suite des temps. » Il y a quand même une certaine puissance spirituelle, ou plutôt quand il y a une certaine puissance spirituelle chez les voyants, chez les astrologues, chez les sorciers, En fait, ce sont des démons qui influencent ces voyants, astrologues et sorciers, afin de retenir captifs ceux qui écoutent leur discours et se soumettent à leur rite. Mais les démons, eux, ne peuvent pas tout. Ils ne peuvent pas lire dans vos pensées. Pas plus qu'ils n'ont pu lire dans la pensée de Nebuchadnezzar et découvrir son rêve. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à craindre à toutes les puissances, mais qu'on doit craindre Dieu. Dieu seul est le Tout-Puissant. Dieu seul connaît ce qu'il y a au fond de nos cœurs, ce qui agite nos pensées. Comme on l'a lu dans le psaume 139, il dit « Tu me sondes et tu me connais. Tu pénètres de loin ma pensée. Dieu seul sait ce qu'il y a au fond de vos cœurs. » Alors pourquoi Daniel rapporte cela au peuple d'Israël qui est en captivité? Je pense c'est parce qu'ils ont été vaincus par un peuple païen et ils pourraient craindre que les divinités de ce peuple soient plus puissantes que le Dieu d'Israël. Mais au fond, en révélant ce rêve, Dieu montre au contraire qu'il est le Tout-Puissant. Il dit « C'est moi qui vous ai envoyé en captivité à Babylone ». C'est moi qui contrôle ces nations. C'est moi qui domine sur tous les peuples. Ne vous laissez pas impressionner par le paganisme en dépit de ses ornements, de son apparente splendeur. Car il ne peut rien. Il est vide et il n'apporte aucune espérance. Croyez en Dieu. Soumettez vos vies à Dieu, le Tout-Puissant. C'est là que vous êtes en sécurité. J'aime la simplicité du récit dans les versets 16 à 19. Daniel, il veut savoir qu'est-ce qui se passe. Il comprend. Il va voir le roi. Il rassemble son équipe d'amis. Il prie. Il est exaucé. C'est tellement succinct le récit. Victor Hugo en aurait fait deux volumes, je pense. Mais avant que l'histoire ne continue au verset 24, il va louer Dieu. Il s'arrête et dans les versets 20 à 23, Daniel loue Dieu. Il loue Dieu pour sa sagesse et sa puissance. Il loue Dieu parce qu'il révèle ce qui est profond et caché. Il loue Dieu parce qu'il a compris l'interprétation du rêve. Il loue Dieu pour sa souveraineté qui dirige toutes les nations. Dans l'ensemble, les hommes et les femmes de ce monde n'ont pas d'assurance, n'ont pas de compréhension du futur, pas d'idée vers quoi la vie humaine et l'histoire se dirigent. Mais les chrétiens, eux, savent qu'il y a un Dieu qui connaît, qui ordonne la course de l'histoire. Ce n'est pas le hasard qui gouverne, ce ne sont pas les puissances occultes qui gouvernent, ce ne sont pas les hommes qui gouvernent, les puissants, mais c'est le Dieu des cieux, l'Éternel. Lui seul connaît les choses à venir. C'est lui qui établit et qui renverse les rois. C'est lui qui dirige les temps et les circonstances, qui connaît toutes choses qui sont cachées. Le Dieu de la Bible connaît toutes choses. Et donc il pourrait tout révéler, mais il ne le fait pas. Il nous révèle que ce qui nous est nécessaire de connaître. Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Est-ce que vous voudriez connaître le jour de votre mort et les circonstances? Ouais. Pas moi. Vous imaginez l'angoisse? Il y a une dame qui a porté plainte contre un voyant. Parce que quand elle a consulté le voyant lui a dit en février-mars 2018, vous allez mourir. Non seulement elle n'est pas morte, donc elle a pu porter plainte, mais surtout elle est tombée en dépression. Vous pouvez imaginer la chose? Non, et Dieu ne nous révèle pas n'importe quoi. Dieu nous révèle ce dont nous avons besoin. Il nous révèle que nous sommes fragiles. Il nous révèle que nous sommes pécheurs, mortels. Mais il nous révèle aussi comment vivre éternellement, où nous allons passer l'éternité. Il nous révèle qu'il est le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui garde, qui protège. Ne vous inquiétez pas du lendemain, mais souciez-vous de lui et d'entretenir une relation avec lui, de le suivre. Et puis, Daniel est conduit devant le roi, maintenant qu'il a compris l'explication, et puis il va lui donner la révélation de son explication. Et je vous propose de continuer la lecture au verset 31. « Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, de bronze. » Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsque une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Vous avez noté la salutation au verset 4 au début de ce passage. Les Chaldéens saluent le roi en disant « Ô roi, vis éternellement !» Vous imaginez qu'on se salue comme ça ?« Ô, vis éternellement !» C'est une belle salutation, n'est-ce pas ? Mais le rêve annonce précisément tout le contraire. Il passera comme les autres. Et donc, il y a deux grandes vérités que je voudrais relever dans l'explication de ce rêve. D'abord, c'est que, au verset 37 et 38, Daniel précise la source de l'autorité. D'abord, il dit, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, c'est lui qui t'a donné toutes ces choses. La seule raison pour laquelle tu es sur le trône, c'est parce que Dieu t'y a placé. Et c'est lui qui t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il pourrait aussi bien le donner à quelqu'un d'autre. Peut-être vous avez l'impression d'avoir réussi sur le plan professionnel, sur le plan familial, artistique, sportif. Vous pensez que vous êtes là par votre intelligence, votre sagesse, votre travail, votre persévérance, votre performance. Mais on a lu au verset 21 que c'est Dieu qui donne la sagesse aux sages et la science aux intelligents. C'est lui qui vous a donné une famille dans laquelle vous avez reçu le modèle de travail et de persévérance. C'est grâce aux encouragements d'une mère, d'un professeur, d'un ami que vous avez pu poursuivre vos études. C'est parce que Dieu vous a placé dans les bonnes conditions que vous avez pu réussir. Paul dira aux Corinthiens, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? » Voyez-vous, ce que nous sommes, c'est ce que Dieu a fait de nous. Et c'est pour cela que on devrait travailler, justement, et persévérer. Parce que Dieu nous a fait tous ces cadeaux, tous ces privilèges. Et c'est aussi pour cela qu'on devrait lui donner gloire à chaque circonstance. La deuxième grande vérité que le songe révèle se trouve au verset 39. Il lui dit « Après toi ». Vous voyez comment ça fait écho dans la tête de Nebuchadnezzar ? Après toi, il y a un autre royaume, un autre roi. Après toi, tu n'es pas immortel. Tu vas passer comme les autres. Nebuchadnezzar, il va régner pendant 43 ans. Et il a révélation de ce songe, la deuxième année de son règne. Vous imaginez ? Tout le temps, il a le temps d'y penser. Je suis là de passage. Je sais provisoire mon installation sur ce trône. Mon règne va passer. Je vais passer. Aussi puissant, aussi fort que tu es, tu vas passer. L'empire babylonien, la tête d'or, a été renversé par l'empire médo-perse, avec le roi Cyrus, la poitrine et les bras d'argent. Lui-même a été renversé par l'empire grec d'Alexandre le Grand, le ventre et les cuisses d'airain. Et lui-même a été renversé par l'Empire romain. Vous avez noté une petite précision sur le quatrième empire. La description montre comme deux périodes. Au verset 33, il dit, tu as vu qu'il avait il avait des jambes de fer, mais ses pieds étaient à la fois de fer et d'argile. C'est comme s'il y a deux périodes ici de cet empire. Et il parle au verset 43 de ce que... Ses pieds et ses orteils d'argile et de fer mêlés symbolisent des alliances humaines. Et il semble donc l'Empire romain est restauré par des alliances humaines plutôt que par la guerre. Mais bref, finalement, une pierre se détache sans le secours d'aucune main et vient frapper les pieds d'argile, et la statue est renversée définitivement. Tous ces royaumes, aussi forts, aussi puissants qu'ils aient été, ont tous passé. Mais le dernier royaume, le royaume de Dieu, va demeurer pour toujours. Je ne suis pas très vieux. J'essaie de me persuader. Mais depuis ma naissance, sous Charles de Gaulle quand même, j'ai vu 8 présidents de la République française. J'ai vu tomber le rideau de fer. J'ai vu la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne. J'ai vu la fin de Nicolae Ceaușescu, dictateur roumain, le 25 décembre 89. J'ai vu la dissolution de l'URSS en 91 et la fin de la Tchécoslovaquie en 92. J'ai vu la disparition de la Yougoslavie en 2003, et la création de la Slovénie, de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, de la Macédoine. J'ai vu la fin de Saddam Hussein, dictateur irakien, en 2003, et sa pendaison en 2006. J'ai vu le printemps arabe et les chefs d'État tunisiens, Ben Ali, égyptiens, Hosni Moubarak et libyens, Muammar Kadhafi, tomber les uns après les autres, après 30, 40 ans de pouvoir, de règne absolu. Tous ces hommes sont passés. Vous comprenez que les plus puissants passent. Les royaumes passent. Aussi, on a beau être le roi le plus puissant de la terre. On a beau être la tête d'or de la statue. On ne peut pas échapper à la mort. Vous savez, lorsqu'on est jeune, on a l'impression que rien ne peut nous atteindre. Rien ne peut nous arrêter. On est incroyablement fort. On pense que la maladie, les accidents, la mort n'ont aucun pouvoir sur nous. On a des projets plein la tête, des envies. On veut tout découvrir. On pense que rien ne peut nous empêcher d'accomplir nos plans. Mais si vous n'appartenez pas au royaume de Dieu, vous courez après la mort. Vous courez après le vent. Votre vie va passer, va disparaître, va se faner tellement rapidement. Vous vous souvenez, Jonathan, 22 ans, en pleine forme physique et spirituelle, il a été repris en un instant, a fait ses obsèques dans cette église. Voyez-vous, on n'a pas un bail sur la vie. On ne sait pas quelle sera notre fin. Et c'est pourquoi Dieu dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Enfin, qu'est-ce que Dieu nous révèle encore dans ce songe? Eh bien, il nous révèle combien son royaume est ferme. Dans les versets 44, 45, dans le temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable. Et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel. Et lui fit de nombreux et riches présents, et lui donna le commandement de toute la province de Babylone, et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Vous avez remarqué que le royaume de Dieu commence de manière insignifiante. Il parle d'une petite pierre. Mais cette pierre finit par devenir une grande montagne qui va remplir toute la terre. Cette pierre qui renverse la statue devient cette grande montagne. Qui est cette pierre? Le prophète Ésaïe dit que c'est l'Éternel lui-même. Les évangiles et la première épître de Pierre disent que cette pierre, c'est Jésus-Christ, qui lors de son retour détruira soudainement la manifestation ultime du quatrième empire et établira son propre royaume sur la terre. Sous l'Empire romain, un enfant est né dans une étable. Il a grandi et a travaillé comme un charpentier dans une ville de Galilée, méprisée par les hommes. Il a fait son entrée dans la capitale assis sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il a été faussement accusé et livré comme un brigand. Devant Pilate, qui l'interrogeait, il a dit « Je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Quand Pilate lui dit qu'il avait le pouvoir de le crucifier ou de le relâcher, Jésus a répondu « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Montrant ainsi que c'est la volonté de Père qui s'exprimait de cette manière. Montrant que le royaume de Dieu, le royaume dans lequel règne Jésus-Christ, est supérieur à tous les autres royaumes de la terre. Sur la croix, il était inscrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Et sa couronne, c'était une couronne d'épines. Mais ce roi-là, donna sa vie pour nous sauver. C'est en mourant sur la croix, à notre place, qu'il fait la conquête de nos cœurs, qu'il fait la conquête de la plus grande victoire qui soit, qu'il remporte la victoire sur le péché, sur le diable, qu'il triomphe de la mort par la résurrection. Ce que tous les royaumes humains n'ont pas pu accomplir dans toute leur puissance et leur grandeur, Jésus l'a accompli par la croix, par l'humiliation de la croix. Mais un jour, sa domination s'étendra sur toute la terre. Il jugera les nations, il renversera les royaumes des hommes et il établira son règne éternellement. À la fin, c'est le royaume de Dieu qui domine sur toute la terre. Je trouve cette pensée tellement encourageante. Ça veut dire que la victoire nous est garantie. La victoire nous est déjà acquise. Quel enseignement tirer? Si le royaume de Dieu est celui qui va renverser tous les royaumes de la terre et qui subsistera éternellement, alors, comme le dit Jésus lui-même, nous devrions chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il n'y a pas de royaume plus important que celui-là. Vous savez, on est toujours fasciné par ce que l'on voit et on voudrait faire notre place ici-bas. Mais la première préoccupation qu'on devrait avoir, c'est d'avoir notre place dans le royaume de Dieu. C'est celui-là dans lequel qui va finir, qui va demeurer pour toujours. Est-ce que vous avez votre place dans ce royaume? C'est un royaume bien réel, bien plus important encore que celui des hommes. Il surpasse d'ailleurs et il domine celui des hommes. C'est celui de Dieu lorsqu'il règne sur vos cœurs et dans vos vies. Et vous pouvez savoir si vous appartenez ou non à ce royaume en vous posant la question « Qui règne dans ma vie ? Qui la dirige ? Est-ce que j'obéis à ce roi ? Ou à quel roi est-ce que j'obéis ? À qui est-ce que j'obéis ? Quelles sont les valeurs ? Quelles sont les lois qui régissent ma vie ? Qui reçoit l'honneur dans ma vie ? Qui a la gloire dans ma vie ? Est-ce vous-même ? Est-ce que c'est vous ? Dans ce cas-là, vous êtes votre propre roi. Et si vous êtes votre propre roi, votre royaume va aussi passer, comme celui de Nebuchadnezzar. Alors reconnaissez que vous n'êtes pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu à cause de vos péchés. Mais reconnaissez aussi que Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, fait de vous son sujet. Placez votre confiance en Christ, mort et ressuscité pour vous. Si vous pouvez dire, je sais que ma place est prête. Je sais que je suis un citoyen des cieux. Je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais que je fais partie du royaume de Dieu. Je peux dire que je poursuis la gloire de Dieu. Que c'est sa domination, que c'est son autorité qui dirige ma vie. Alors, recherchez le bien de votre ville. Recherchez le bien du royaume terrestre, temporaire, dans lequel votre Dieu vous a placé. Mais continuez à suivre et à être régi par les règles du royaume de Dieu. Vous avez remarqué, Daniel et ses amis appartiennent au royaume de Dieu, mais ils vont pouvoir servir pendant leur temps ici-bas, à Babylone. Et ils vont continuer à obéir fidèlement aux règles du royaume de Dieu, mais en étant une bénédiction pour ce royaume terrestre. Et faire connaître le royaume de Dieu aux autres. Vous avez noté que Daniel, par son intervention, il a sauvé aussi tous les sages de Babylone. Non seulement lui n'a pas péri, mais les autres non plus n'ont pas péri. En cela, il a été une bénédiction pour eux. Nous devons servir là où Dieu nous a placés, dans un royaume fragile, en attendant l'établissement du royaume véritable, celui de Jésus-Christ. Dieu nous révèle combien les religions de ce monde sont futiles, combien le pouvoir humain est fragile, et enfin, combien son royaume est ferme. Alors ne bâtissez pas votre vie sur le sable mouvant des religions ou des philosophies de ce monde. Ne prenez pas appui sur le pouvoir humain, car de quel secours il peut être face à la mort? Mais bâtissez votre vie sur la pierre angulaire, choisie et précieuse devant Dieu. Celui qui croit en Jésus ne sera pas confus. C'est lui qui garantit notre avenir, notre éternité. C'est lui qui donne du sens à notre vie. Amen. Prions Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons encore te remercier de ta parole nous révèle qui tu es. Tu es le Dieu de toute éternité. Tu es le Dieu qui tient le monde entier entre ses mains, auquel sont assujettis tous les royaumes de la terre, tous les êtres de la terre, tous les humains. Même si tu délègues de ces responsabilités, de cette autorité, tu gouvernes sur toute chose. Seigneur, on veut rejeter toutes les philosophies de ce monde, tout le paganisme et toutes les fausses religions qui sont vaines, qui ne sont d'aucun secours. Nous reconnaissons, Seigneur, que avec tous les puissants de la terre, nous allons aussi passer. Nous sommes temporaires, ici-bas. Et que tu veux nous donner l'éternité dans ton royaume. Et tu l'as fait par Jésus-Christ, s'offrant lui-même à notre place sur la croix. Béni sois-tu pour cela, Seigneur, notre Dieu. On te prie pour que les principes de ton royaume gouvernent nos propres vies. Que tu nous aides à être une bénédiction pour notre ville, pendant notre passage ici-bas, d'être une bénédiction pour les hommes qui nous voient vivre. Seigneur, attire encore un grand nombre dans ton royaume. Ouvre les yeux, Seigneur, de nos jeunes. Ouvre les yeux de chaque homme, chaque femme et qui fréquente ces lieux pour qu'ils comprennent la grandeur, la beauté, la fermeté de ton royaume. Te le prions par Jésus-Christ. Amen. Amen.